au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi le 10 septembre, bienvenue à Lanaudière PM. Évidemment, il est question de remaniement ministériel à l'émission d'aujourd'hui. On aura la vision de Pierre Paquette, notre commentateur politique, un peu plus tard à l'émission. Également, Sipi Flamand, le chef du conseil des Atikameks de Manawan, qui aura l'occasion de parler de l'Assemblée des Premières Nations, là, qui demande d'abandonner le projet de loi sur la réforme du régime forestier. Avec nous également Nicolas Dufour, maire de Repentigny. Il sera question de la crise du logement. Aussi, Gabrielle Sainte-Marie, députée fédérale de Joliette. On va parler de la rentrée parlementaire du côté d'Ottawa qui s'en vient pour lundi. Mais tout d'abord, Pierre Paquette qui est avec nous. Bonjour, Pierre.
Pierre Jubainville.
Pierre Jubainville, oui, Pierre Paquette.
Bonjour, Claude.
Je le débaptisais. Journée de remaniement ministériel à Québec. On va parler de la scène municipale pour commencer avec, en bout de ligne, avec nous, le maire de Mascouche également, président de l'Union des municipalités du Québec, Guillaume Tremblay. Bonjour, Guillaume Tremblay.
Bonjour à vous deux.
Bonjour. Geneviève Guilbeault, aux affaires municipales, M. Tremblay. En tant que président de l'UMQ, vous la connaissez bien, elle a la réputation d'être coriace. Quelles sont vos attentes?
Bien, tout d'abord, il faut savoir, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Avec Mme Guilbeault, on a eu des fois c'était des dossiers un peu plus épineux qu'on a vécu au cours des dernières années. Maintenant, on est prêt à partir sur une nouvelle base avec elle. Il faut savoir que le monde municipal, on a toujours travaillé en collaboration. Notre objectif, c'est d'être écouté, d'être entendu, mais surtout d'être défendu aussi à la table des ministres. Donc, on va avoir la chance. On a d'ailleurs un conseil d'administration le 19 septembre prochain. Puis on souhaite ardemment que Mme Guilbeault se déplace. Venez nous rencontrer le 19 septembre prochain.
Les transports touchent aussi les villes. Guillaume Tremblay, c'est un nouveau venu, Jonathan Julien, qui devient ministre titulaire. Alors que le Québec est aux prises avec un déficit des infrastructures et surtout l'état des routes est lamentable, quel est le message que vous lui lancez?
Ben, encore une fois, on a eu la chance de rencontrer M. Julien il y a à peu près 2 semaines à titre de ministre des Infrastructures. Très content de la rencontre. On sent que c'est un ministre qui veut travailler en collaboration. Maintenant, de le voir maintenant au ministère des Transports, moi, je pense que c'est de bon augure. Faut juste savoir que le Québec est grand. J'espère qu'on n'entendra pas seulement et uniquement parler d'un seul projet, mais bel et bien de l'ensemble du territoire québécois.
La question du logement, enfin, c'est une priorité pour les villes. Comment accueillez-vous la nomination de Sonia Bélanger?
Ben, j'ai eu la chance, c'est la première fois que je la rencontrais, Mme Bélanger. Elle semble être une fille d'action qui veut justement régler des problèmes. On a justement mentionné à Mme Bélanger de donner notre entière collaboration pour qu'on puisse faire avancer ces dossiers de logement qui touchent l'ensemble des villes. D'ailleurs, je pense d'aller en parler tantôt avec mon collègue de Repentigny, Nicolas Dufour.
Merci beaucoup, M. Tremblay, de nous avoir rappelé.
Bonne fin de journée à vous.
Bonne fin de journée.
Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, Pierre Jubainville. Donc, remaniement ministériel. Si on regarde ça sur la scène régionale, il y a 3 ministres de la région de Lanaudière qui changent de portefeuille.
Oui, la députée de Berthier, Caroline Proulx, qui passe du tourisme aux aînés. La députée de Repentigny, Pascale Derry, qui devient ministre de l'Emploi et de la solidarité sociale. Elle quitte l'enseignement supérieur. Mm-hmm. Elle est remplacée par Martine Biron. La ministre de l'Habitation et députée de Bertrand-France, Hélène Duranceau, monte en grade en prenant les commandes du Conseil du Trésor. Il y a quand même d'autres...
D'autres nominations, oui, quand ça. Même. Oui, on
d'autres
peut y aller.
D'autres nominations. Sonia Lebel, qui quitte le Trésor pour l'éducation, remplaçant Bernard Drainville, qui, lui, s'en va à l'environnement.
Mais on sait que Bernard Drainville, il est allé de déclarations il y a peut-être 2 ans sur les GES, des déclarations qui ont retenu l'attention en lien avec le troisième lien.
C'est le cas de le dire. On s'en souvient tous de sa déclaration.
On peut se poser des questions sur le fait que, est-ce que Bernard Drainville est vraiment la personne idéale pour se retrouver avec l'environnement, qui est quand même un dossier très, très, très important pour les nouvelles générations. Est-ce que Drainville fera l'affaire?
A-t-il l'environnement à cœur? On verra.
Oui, on peut se poser la question.
Mm-hmm. Il y a Yann Lafrenière, c'est important, qui conserve le dossier autochtone, mais il se voit aussi attribuer la responsabilité de la sécurité publique. Et pas de surprise, Claude, Christian Dubé, ministre de la Santé, Éric Girard, ministre des Finances. Christine Fréchette, ministre de l'Économie, reste à leur poste. Et en présentant son nouveau Conseil des ministres, François Legault a dit comprendre les inquiétudes des Québécois dans un contexte international difficile. Pour y faire face, il présente les quatre priorités de son gouvernement.
On écoute François Legault.
Un, soutenir nos travailleurs, nos entreprises, nos régions, créer des emplois de qualité et protéger le pouvoir d'achat des Québécois. Deuxième champ d'action, se dégager du système qui nous paralyse pour se donner les moyens d'être plus efficaces. Trois, agir avec fermeté pour assurer la sécurité des Québécois, en particulier dans toutes les grandes villes du Québec. Et quatre, se donner les moyens pour protéger notre identité nationale. C'est ce qu'on est, c'est ce qui est le plus important. Donc, en conclusion, depuis 7 ans, on a fait des changements, mais ce n'est pas suffisant. Le nouveau monde exige de nouveaux changements. Le nouveau monde exige plus de courage. Comme on le dit en québécois, le nouveau monde exige qu'on mette nos culottes.
Bon, maintenant, ce qui reste à voir, est-ce que ce sera assez pour relancer le gouvernement de la CAQ, puisque de nouvelles projections de QC 125 sont apparues, Pierre Jubinville, dans la dernière heure, et puis ben, c'est toujours zéro siège
pour la CAQ.
Pour la CAQ, alors, en éventualité d'une élection.
Et le PQ serait majoritaire.
On aura l'occasion de commenter tout ça un peu plus tard aussi, oui, avec Pierre Paquette, là, qui va évidemment faire le tour du remaniement ministériel et de l'impact que peut avoir ce remaniement ministériel. Et Pierre Jubinville, on va se retrouver tout à l'heure avec l'actualité à 16h30. Dans un instant, Gabriel Sainte-Marie, le député fédéral de Joliette, on va parler de la rentrée parlementaire à Ottawa. Ça aura lieu prochainement, là.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Super Soir SNQL, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, épicerie Forêt et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonnie-Soir-Chelle, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonnie-Soir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonnie-Soir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Du 11 au 14 septembre, venez vivre la 6e édition du Festival Ripontrade. Plus de 45 prestations dans les maisons et les rues du village, ainsi que des spectacles sous chapiteaux vous attendent. Cette année, le festival propose 3 soirées thématiques. Un jeudi 100% féminin, un vendredi à Saveur de l'Est, avec entre autres la famille Leblanc, Vichten et Kim Recru, puis un samedi soir local avec le spectacle 10 ans du Diable à 5 et le retour du mythique groupe Arcanson. En journée, plus de 30 spectacles acoustiques chez les habitants prendront d'assaut le village. Plus d'informations et billets au ripontrade.ca.
Signal clair sur Lanaudière. CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226.
Vous avez des nouveaux services à offrir? Un talent à partager? Des conseils à donner? Des chiens à promener? Des massages à donner? Des prothèses à fabriquer? Vous avez une bonne idée? Vous voulez vous lancer? Informez-nous, on le fera savoir. Venez vous faire voir. Visitez notreentourage.ca pour voir.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, Joliette.com.
avec vous, partout dans la Naudière.
Joliette, Saint-Cléophas de Brandon, Entrelacs, Saint-Félix de Valois.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Chez nous, on s'en laisse point poser. La musique américaine, on n'en joue plus.
La Naudière PM, politique fédérale.
Il est 16h16 à Ottawa. La rentrée parlementaire aura lieu lundi prochain. Puis les députés du Bloc québécois ont hâte d'en découdre avec le gouvernement Carney. François Morin a eu l'occasion de discuter un petit peu plus tôt de cette rentrée parlementaire avec le député de Joliette-Manawan, Gabriel Sainte-Marie.
Oui, on a eu un beau caucus à Sainte-Foy dans la région de Québec. Puis là, on fait des tournées là, auprès d'entreprises, d'organismes dans nos dossiers.
Et quelles seront justement les priorités là, du Bloc en cette rentrée parlementaire?
Oui, ben c'est les enjeux économiques propres au Québec, surtout là, dans le contexte des tarifs de Donald Trump. On va parler de laïcité aussi, parce que là, le gouvernement fédéral va soutenir les contestations des lois du Québec à la Cour suprême avec notre argent. Ça, c'est inacceptable. On va parler d'identité, puis aussi d'environnement.
Est-ce qu'on peut dire que la lune de miel est déjà terminée parce que on peut constater assez facilement qu'il n'y a pas beaucoup de gains là, face justement aux menaces de Donald Trump?
Oui, ben à date, ce qu'on a vu, c'est Mark Carney a fait aucun gain face à Trump, a même plié sur beaucoup d'éléments. Par exemple, la lutte aux paradis fiscaux, le peu qui avait été adopté, il a reculé. Là, par exemple, taxer les géants du web ou avoir un impôt minimum mondial. Il a dit qu'il faisait ça pour avoir un accord d'ici le 21 juillet. On connaît les conséquences. Fait que faire des gains face à Trump, c'est difficile. Est-ce qu'un autre premier ministre aurait réussi? Je suis pas certain. Mais de plier dès le début, puis d'abandonner des intérêts économiques sans gain, ben ça, c'est à dénoncer, évidemment.
Pas encore tout récemment, le gouvernement Carney a jeté du lest, justement, sur certains contre-tarifs.
Oui, c'est ça. Bon, c'était question, il disait, étant donné qu'il y a le traité de la CEUM, ce qui était l'ALENA avant, doit s'appliquer, ben là, on va s'arrimer, donc on va laisser tomber des contre-tarifs. Mais ce qui est inquiétant ici, c'est où est la stratégie. Donc, pendant la campagne électorale, on nous promettait un nouvel accord bien vite que ça allait bien aller. Puis là, ça va être au mieux des petites ententes à la pièce. Oui, ce qui passe par le traité commercial est exempté, mais il y a d'autres secteurs. Là, je pense au bois d'œuvre avec la Syrie Saint-Michel dans le nord de la circonscription, le plus gros employeur de la Matawini. Eux autres, c'est notre région est frappée de plein fouet. Puis là, le gouvernement, ben, il annonce des mesures, mais est-ce que ça va être suffisant pour soutenir l'activité économique? C'est loin de la coupe aux lèvres. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une stratégie? En tout cas, il s'en prend une, puis vite.
Et dans vos dossiers qui vous sont propres, parce qu'évidemment, on a changé un petit peu de responsabilité, oui. Là, vers quoi on s'aligne?
Oui, bien, premièrement, j'ai le dossier du logement, là, avec la pénurie de logement, avec des loyers à 1500$, 2000$ par mois. Le monde a vraiment de la difficulté. Fait que ça, on va travailler très fort là-dessus pour trouver des solutions pour qu'il y ait plus de logements sociaux. Puis après ça, ben pour que les jeunes puissent avoir la possibilité de s'acheter un condo ou une maison, que ça soit rendre ça plus abordable. Fait que ça, c'est sûr qu'on va travailler très fort là-dessus. Au niveau du dossier de l'industrie, ben là, c'est de s'assurer que l'économie du Québec soit pas mise de côté. Par exemple, on le sait, là, en Ontario, c'est l'automobile. Dans l'Ouest, c'est le pétrole. Ça, le gouvernement le soutient, mais pour ce qui est de l'aérospatiale, qui est propre au Québec, à la région du Grand Montréal, ben là, les tarifs s'appliquent, puis ça fait très mal. Donc, ça se rappeler au premier ministre Carney qu'il y a une économie propre au Québec aussi, puis qu'il doit soutenir ça. Donc, la forêt aussi, toutes les ressources, l'agriculture aussi.
Et les collègues journalistes qui ont profité du point de presse hier pour questionner le chef au sujet de l'implication du parti dans la campagne électorale provinciale, est-ce qu'on va voir Gabriel Sainte-Marie sur le terrain?
Oui, puis ça a toujours été le cas. Là. Nous autres, au Parti québécois puis au Bloc québécois, c'est les mêmes militants. Moi, avant d'être député du Bloc, je militais au Parti québécois. Donc, par exemple, dans la partielle d'Enterbonne, j'étais allé faire du porte-à-porte, puis ça va continuer comme ça. Puis dans la dernière campagne, j'ai J'ai bénéficié du soutien des militantes puis des militants du Parti québécois. Moi, si je suis en politique, c'est pour que le Québec devienne un pays. Fait que le véhicule pour ça, c'est le Parti québécois. Fait que ça va continuer comme ça.
Et le chef, en terminant, M. Blanchet, qui a quand même laissé une porte entrouverte en laissant libre cours aux députés de peut-être faire le saut vers le provincial. Il n'y a pas d'intérêt de la part de Gabriel Sainte-Marie.
Oh non, pas du tout. Puis j'en ai pas vu chez mes collègues non plus. Là, quand il avait répondu à la question, c'est la partie qui a peut-être pas été retenue pour faire la clip là, des médias présents, mais c'est il s'attend à ce que chaque député finisse son mandat là, quand on est élu. C'est pour ça, là. Donc ça fait plusieurs années que je suis député au Bloc pour la circonscription de Joliette, qui s'appelle maintenant Joliette-Manawan. Puis je vais continuer comme ça.
Gabriel Sainte-Marie, député du Bloc québécois pour la circonscription de Joliette. On vous rappelle, la rentrée parlementaire à Ottawa, c'est lundi.
Lanaudière PM, affaires municipales.
La ville de Repentigny s'attaque à la crise du logement. Elle vient de se doter là, d'une toute première stratégie de logement social et abordable pour combler tous les besoins. Et le défi de taille quand même, comme l'explique le maire Nicolas Dufour à notre collègue Régent Turgeon.
Ah, vraiment, surtout quand on sait que dans le marché qu'on a à Repentigny, là, c'est à peine 5% des habitations là, qui sont des habitations à prix modique ou même abordable. Il était temps que la ville déploie une stratégie robuste et costaude pour adresser le problème et s'assurer qu'on construise davantage de logements sociaux et abordables à Repentigny. Ça a pris notre mandat pour préparer cette stratégie-là parce qu'on voulait bien faire les choses. Ça a été un travail de longue haleine qui s'est fait en collaboration avec le milieu communautaire, socio-économique. Et là, aujourd'hui, on est vraiment fiers de déposer cette stratégie qui va nous guider pour les prochaines années pour avoir plus de logements pour tout le monde à Repentigny.
On parle d'un taux d'inoccupation de 1,4 % La norme au Québec est de 3 % c'est pas normal, là.
Ah non, vraiment. Puis pendant des années, le développement de Repentigny ne s'est pas fait sur le modèle où il y avait une inclusion pour tous. Et là, on voulait corriger les choses, les changer. On a notamment notre projet de requalification du parc industriel Avancia qui va attirer beaucoup de nouvelles entreprises, nouvelles industries, nouveaux commerces. Et on veut s'assurer de profiter de cette requalification-là pour avoir plus de logements sociaux et abordables. Et on a d'autres projets là qui vont être étalés un peu partout dans la ville pour faire du développement à échelle humaine. Pour nous, c'est une priorité. On ne veut pas défigurer la ville, mais on veut surtout s'assurer que tout le monde ait un toit au-dessus de la tête.
Et pour s'assurer que tout le monde ait un toit sur la tête, on parle d'axes d'intervention, gestion du territoire, soutien financier, réglementation, sensibilisation et leadership. On est prêt à donner des sous à des gens qui en auraient besoin.
C'est pour ça que dès notre arrivée en poste, là, puis c'était un des premiers piliers de notre stratégie, on a mis en place une taxe aux promoteurs. Lorsqu'ils font du développement résidentiel à Repentigny, maintenant, ils doivent cotiser à un fonds qui est déjà rendu à plus d'un demi-million, qui va servir à financer des projets de logement social et abordable. Et on a déjà déposé notre réglementation à titre d'exemple pour le secteur Avancia, où on a ce qu'on appelle du zonage incitatif. On permet un certain nombre d'étages aux promoteurs, mais s'ils veulent faire du logement social, on leur permet d'avoir quelques étages de plus. On a vraiment pris l'approche de la carotte plutôt que le bâton. Okay. On ne veut pas pénaliser les promoteurs, mais on veut surtout s'assurer qu'ils fassent partie de la solution.
On parle d'un territoire qui est quand même développé à 99,99%. Cette stratégie-là, ben, c'est un défi quand même à relever, là.
Ah, c'est sûr que c'est un défi parce que si on prend des villes comme par exemple Terrebonne où il y a énormément de zones blanches, c'est facile de pouvoir construire du logement social et abordable parce qu'ils ont les terrains qui sont prêts à accueillir. À Repentigny, ça va être le défi. Ça va être de toujours réussir à faire des projets qui vont avoir de l'acceptabilité sociale. Mm-hmm. Mais en même temps, je pense que de la façon qu'on fait notre sensibilisation, de la façon qu'on va présenter les projets aux citoyens, et ça va être dur pour eux de s'opposer à des beaux projets pour permettre à tous d'avoir un toit sur la tête à un prix qui est intéressant.
Et là, ça commence à court terme. On parle d'un plan d'action sur 2 ans et un plan d'action sur 3 ans.
Oui, puis il y a déjà des actions, là, comme j'ai mentionné, qui ont déjà été enclenchées par notre conseil de ville, mes excuses. Donc, on a commencé, à titre d'exemple, avec la taxation aux promoteurs pour des taxes dédiées au logement social. On a créé un toit pour tous, notre OSBL qui nous permet d'aller chercher des subventions. Donc, il y a déjà la stratégie comme l'aboutissement de plusieurs actions qui ont été enclenchées, mais là, on est vraiment dans le concret.
Là, vous avez parlé tantôt dans votre discours d'un appel à la communauté. Ça va prendre des gens pour vous aider là-dedans. Là, on parle justement de la MRC, Chambre de commerce locale.
Oui, puis des partenaires financiers. Je sais qu'à titre d'exemple, les Caisses populaires des Jardins est un regroupement qui est très actif là pour financer des projets de logements sociaux et abordables. On est déjà en discussion avec eux pour nos premières phases. Et il y a d'autres partenaires financiers institutionnels qui vont pouvoir se joindre à nous. Donc, on continue à travailler en collaboration avec notre milieu socio-économique. Pour nous, c'est très important.
Il y a des gens qui ont toujours pensé que d'impliquer le secteur privé ou de penser que si le secteur privé ne voulait pas s'impliquer dans le logement abordable, c'est parce que ce n'était pas rentable. Est-ce que cette notion-là pourrait disparaître avec cette stratégie-là?
Bien, c'est sûr qu'on voit que les coûts de construction aujourd'hui ont explosé pour mille et une raisons. Et c'est là que les promoteurs, la grande majorité, ne sont pas des gens de mauvaise foi. Au contraire, ils veulent faire les logements où le coût est le plus bas possible pour s'assurer d'avoir des locataires. Mais là, ça va être des petits coups de pouce qu'on va être en mesure de leur donner pour accélérer la construction de projets. Puis je pense que la réglementation est aussi à avoir là-dedans. Donc, plus on va avoir une réglementation qui va être en faveur de la construction de ce type de projet-là, plus les promoteurs vont embarquer.
Dernier point, M. Dufour. Repentigny a développé une politique de saines habitudes de vie, une politique sur le développement culturel et maintenant une politique en matière de logement sociable. Ça va faire boule de neige. Est-ce qu'on peut penser que cette stratégie-là pourrait être adaptée ailleurs?
Oui, puis on le souhaite, hein, parce qu'on s'est nous-mêmes inspiré de ce qui se faisait de meilleur un peu partout sur la planète. Si ça peut encourager d'autres villes à s'inspirer à leur tour du travail qu'on a fait, on en serait bien content. Et on a beaucoup d'autres stratégies qui vont être à mettre à jour et à développer. C'est pourquoi je demande un deuxième mandat à la population.
Voilà, c'était le maire de Repentigny, Nicolas Dufour. On parlait entre autres de crise du logement, de logement social. Il est 16h28, 22 degrés actuellement au centre-ville de Joliette.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine Est pour Charles de Gaulle, là, c'est dense depuis Marien, Salle de Mer, jusqu'à un petit peu passé le boulevard Henri Bourassa. On prend de la vitesse pour atteindre Charles de Gaulle, traversée facile vers Repentigny. 40 Est, ça se passe bien justement du côté de Repentigny. Pont Le Gardeur, accès facile autant par Cherbourg que par Notre-Dame, la 25 Nord. C'est un peu dense à la jonction avec la 25 pour la suite des choses. Là, Île-Saint-Jean, Terrebonne, ça va bien. Le pont Sophie-Masson, assez dense à l'approche et ça demeure lourd là, pour franchir la rivière des Mille-Îles. Finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40 en direction est. Un peu dense depuis la montée des Pionniers. Direction ouest, un petit peu plus nombreux, le secteur de la montée du Mai. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
C'est l'heure du 4 à 7 sur la terrasse de la Cage du Lac à Saint-Gabriel. Du mercredi au vendredi de 16h à 18h, venez relaxer avec notre ambiance unique et nos spéciaux 2 pour 1 sur une sélection de boissons. Et les fins de semaine ensoleillées, ne manquez pas notre grande nouveauté, le barbecue sur le toit préparé par notre chef. Une façon festive de profiter de l'été. Avec la vue sur le lac Masquinongé et les arômes du grill, vous serez conquis. Terrasse, bonne bouffe, bonne compagnie, tout y est. Réservez votre table au 450-271-8217 ou en ligne à cachedulac.com.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Acheter local, c'est plus important que jamais. Pour trouver les commerces de ta région, va sur notreentourage.ca et ajoute-le à tes favoris. C'est rapide, simple, 100% local. Regarde aussi ton répertoire reçu par la Poste.
Le Waro Show revient pour une 4e édition à la Forêt Waro. Un spectacle unique au sommet du Mont des Conscrits avec le trio Lanaudois Garçon à marier. Rendez-vous au Belvédère pour un spectacle de musique traditionnelle haut en couleur. Réservez vos billets dès maintenant au Parc régionaux /événements avec un S et laissez-vous emporter par la magie du Waro Show.
Le Waro Show avec Garçon à marier, le samedi 13 septembre.
La municipalité de La Noraie est heureuse de se joindre à Passion Marché afin de vous offrir des marchés publics encore plus gourmands. Venez nous retrouver le dimanche 14 septembre au parc Jean Bourdon pour le dernier marché de la saison sous la thématique de fourches et bottes de foin. De 10h30 à 15h30, venez découvrir près de 30 exposants locaux et vous promener sous les airs festifs d'un joueur d'accordéon. Aire de restauration complète avec Au pied des noyers, une entreprise de La Noraie. Le carreau et la salopette seront à l'honneur ce dimanche 14 septembre au parc Jean Bourdon à La Noraie.
Amateurs de fruits et légumes locaux, c'est le moment de faire vos provisions. Du 11 au 14 septembre, profitez des nombreux spéciaux dans les magasins métro de la région. Vous y trouverez des produits du Québec au meilleur prix. En plus, les membres du programme Moi reçoivent 150 points bonus lorsqu'ils achètent pour 15 $ de fruits et légumes. Ne manquez pas cette occasion de remplir vos paniers de fraîcheur et de saveur. On se retrouve chez Métro.
À 16h32, Pierre Jubinville, on va parler de cette présentation du nouveau Conseil des ministres de François Legault.
Oui, il y a trois ministres dans la région de la Naudière qui changent de portefeuille. La députée de Berthier, Caroline Proulx, qui passe du tourisme aux aînés. La députée de Repentigny, Pascale Derry, devient ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Elle quitte l'enseignement supérieur. C'est Martine Biron qui la remplace. La ministre d'Habitation et députée de Bertrand, France-Hélène Duranceau, monte en grade. Elle prend les commandes du Conseil du Trésor. Parmi les autres nominations, Sonia Lebel quitte le Trésor pour l'éducation, remplaçant Bernard Drainville qui s'en va à l'environnement. Jonathan Julien s'en va au transport, remplaçant Geneviève Guilbeault, qui, elle, occupera le poste de ministre des Affaires municipales. Et enfin, Yann Lafrenière, qui conserve le dossier autochtone, se voit attribuer la responsabilité de la sécurité.
Et public. François Legault, fait part de ses priorités, là.
Ouais, il a d'abord présenté sa réflexion sur ce que le Québec est devenu depuis la pandémie.
C'est depuis octobre 2018, le monde a profondément changé. On a traversé des crises, pandémies, explosion du coût de la vie, explosion de l'immigration et bien sûr, retour d'un Donald Trump hyper protectionniste. Donc, en peu de temps, le monde a changé de façon radicale. Le deuxième constat que je veux faire, c'est que le système dans lequel on évolue depuis des décennies a atteint ses limites.
Et pour faire face à ces défis, le premier ministre a présenté quatre priorités.
Un, soutenir nos travailleurs, nos entreprises, nos régions, créer des emplois de qualité et protéger le pouvoir d'achat des Québécois. Deuxième champ d'action, se dégager du système qui nous paralyse pour se donner les moyens d'être plus efficaces. Trois, agir avec fermeté pour assurer la sécurité des Québécois, en particulier dans toutes les grandes villes du Québec. Et quatre, se donner les moyens pour protéger notre identité nationale.
Et réaction, Pierre Jubinville, de l'Union des municipalités du Québec.
Oui, le président Guillaume Tremblay, qui est maire de Mascouche, affirme que le remaniement est une occasion de poursuivre le dialogue entre les municipalités et surtout avec la nouvelle ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault. On doit s'attaquer au financement des infrastructures et arriver rapidement à une entente avec le gouvernement pour débloquer les 8,5 milliards qui sont dans les coffres.
Dans un tout autre ordre d'idées, on se prépare au Bloc québécois pour la rentrée parlementaire de lundi.
Oui, on a hâte d'en découdre avec le gouvernement Carney. Les députés ont été réunis pendant 2 jours à Québec lors d'un caucus pré-sessionnel. Le député de Joliette, Gabriel Sainte-Marie, d'avis que les libéraux tardent à livrer la marchandise.
Ce qui est inquiétant ici, c'est où est la stratégie. Donc, pendant la campagne électorale, on nous promettait un nouvel accord bien vite, que ça allait bien aller. Puis là, ça va être au mieux des petites ententes à la pièce. Oui, passe par le traité commercial est exempté, mais il y a d'autres secteurs, là, je pense au bois d'œuvre avec la Syrie Saint-Michel dans le nord de la circonscription, le plus gros employeur de la Matawinie. Eux autres, c'est notre région est frappée de plein fouet. Puis là, le gouvernement, ben, il annonce des mesures, mais est-ce que ça va être suffisant pour soutenir l'activité économique?
On se souvient, Pierre, pendant la pandémie, on parlait de l'explosion des coûts de matériaux de construction, et c'est encore le cas en 2025.
Ouais, les coûts ont augmenté, Claude, de deux fois plus vite au Québec qu'au Canada cette année. Alors, il s'agit d'une hausse de 4 % en six mois. Selon l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, le directeur David Goulet, les coûts aussi pour la plomberie, l'électricité, la pose d'ascenseur, etc., ont aussi affiché des hausses significatives.
On l'a vu beaucoup avec la climatisation, chauffage, ventilation. C'est en fait le type de travaux dont les coûts ont augmenté le plus rapidement au Québec dans les six derniers mois. On est à 11 % au Québec pour l'augmentation. Au reste du Canada, par contre, on est à 5 %. Donc, au Québec, c'est beaucoup plus élevé. Et c'est sûrement lié en fait là, en partie au manque de main-d'œuvre qualifiée.
Et réouverture, en final, pour finir ce bulletin, de l'autoroute 40, ça, c'est une bonne nouvelle.
Ah, c'est une très bonne nouvelle et ça survient trois semaines après l'affaissement survenu sur la 40 à Berthierville. Au départ, on pensait que ça prendrait cinq semaines pour réparer. Et voilà que le tout devrait être établi pour l'heure de pointe demain matin.
On se souvient de l'autoroute 25, il y a quelques années, ça avait été très, très long.
Je pense que ça avait pris deux mois.
Oui, ouais, quelques mois. Ben. Merci beaucoup, Pierre Jubainville. Il est 16h37.
Au 99.1-88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1-88.9.
Lanaudière PM, Première Nation.
Il est 16h37, l'Assemblée des Premières Nations qui demande l'abandon pur et simple du projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier. Les négociateurs à Tikamek qui en arrivent à la conclusion là, qu'après plusieurs mois de pourparlers de bonne foi, ben, il n'existe aucune garantie de proposition, là, que les propositions autochtones vont être intégrées à une version révisée là, de ce projet de loi. Un échange entre François Morin et le chef du Conseil des Tikamek de Manawan, Sibi Flamand.
Alors, Sibi Flamand, dans un premier temps, on apprenait il y a quelques jours que l'Assemblée des Premières Nations demande l'abandon pur et simple du projet de loi sur la réforme du régime forestier, le projet de loi 97. Qu'est-ce qui accroche?
Eh bien, le gouvernement du Québec, ben, le ministère des Ressources naturelles ne prend pas en compte ce que les Premières Nations demandent, puis notamment en matière de respect des droits ancestraux issus de traités, puis également les Premières Nations qui demandent la mise en place d'une véritable co-gestion des forêts pour pouvoir mieux définir ensemble comment travailler sur le dossier de la foresterie, puis également la demande du retrait complet du zonage d'aménagement forestier prioritaire, genre ce que la ministre proposait, c'est genre le concept de la triade, une partie et à protéger une partie des coupes intensives puis une partie partagée. Donc ça ce sont des demandes que nous faisions auprès des ministres qui travaillent là-dessus, mais jusqu'à maintenant, on nous répond ouais, « oui, on va faire ça, oui, on va faire ça », mais il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui est entendu de la part du gouvernement.
Donc, ce que vous réclamez, ce n'était pas du tout dans le projet initial?
Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un changement complet dans le projet de loi 97. Puis présentement, c'est pas ce que le Québec, c'est pas ce que le gouvernement veut faire. Oui, il nous propose de s'asseoir ensemble, mais de là à nous imposer à prendre le crayon puis à écrire lui-même ses idées sur le projet de loi sans prendre en considération des Premières Nations.
Bon, jusqu'à maintenant, là, le dialogue est clos, mais est-ce qu'on prévoit d'une façon ou de l'autre là, une reprise des pourparlers? Parce qu'évidemment, il y a un remaniement ministériel au cours des prochaines heures. Est-ce qu'on souhaite là justement là une reprise du dialogue?
Considérant qu'il y a des changements qui s'en viennent au niveau du gouvernement en lien avec le remaniement, on espère qu'il y ait un changement de position de la part du Québec. S'il n'y a pas de changement, c'est tout bad. Il faut que faut qu'il y ait des actions de leur côté. Nous, on a déjà fait les démarches nécessaires pour se faire entendre. Puis c'est de leur côté maintenant qu'ils fassent des efforts de travailler dans l'esprit de la réconciliation.
En fait, peu importe qui sera assis sur la chaise du ministre du ministère des Forêts, et il faut que ça bouge, là.
Il faut que ça bouge. C'est nécessaire que ça bouge, puis même on voit que les industries aussi commencent à prendre la place également pour pouvoir affirmer comme quoi le projet de loi n'est pas équitable, ne respecte pas ce qui devrait être respecté en matière environnementale.
Ben là, ça m'ouvre une porte. Avez-vous eu des discussions justement avec M. Champoux là, de la Syrie Saint-Michel?
On a eu des discussions avec certaines industries de foresterie, puis je pense que ils disent que c'est qu'il faut qu'il y ait des changements, puis ils veulent travailler avec les Premières Nations, mais encore là, il faut encore discuter, dialoguer avec eux également.
Et au moment où on se parle, Yan Lafrenière est toujours ministre des Affaires autochtones. On dit qu'il va s'en aller à la sécurité publique, mais va conserver son portefeuille aux Affaires autochtones. Est-ce qu'on est satisfait du travail de M. Lafrenière dans ce dossier-là?
Deux fois plus de pouces en l'air.
Bon, ben voilà, deux fois plus de pouces en l'air. Alors, c'est correct. Voilà, c'était le chef de la nation Atikamekw de Manawan, Sibi Flamand. Donc, il est clair, quand on parle de Yan Lafrenière, ben il conserve les affaires autochtones et s'ajoute à ses tâches, celles de la sécurité publique. Dans un instant, d'ailleurs, on va revenir sur ce remaniement ministériel à Québec avec Pierre Paquette.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Acheter local, c'est plus important que jamais. Pour trouver ce que vous cherchez dans votre entourage, rendez-vous sur notreentourage.ca. Mettez-le dans vos favoris sur votre cellulaire. C'est rapide et garanti 100% local. N'oubliez pas de conserver notre répertoire reçu par la poste ou visitez votre mairie pour vous en procurer un.
Le Waro Show revient pour une 4e édition à la Forêt Waro. Un spectacle unique au sommet du Mont des Conscrits avec le trio Lanaudois Garçons à marier. Rendez-vous au Belvédère pour un spectacle de musique traditionnelle haut en couleur. Réservez vos billets dès maintenant au Parc régionaux /événement avec un S et laissez-vous emporter par la magie du Waro Show.
Le Waro Show avec Garçons à marier, le samedi 13 septembre.
Du 11 au 14 septembre, venez vivre la 6e édition du Festival Ripontrade. Plus de 45 prestations dans les maisons et les rues du village, ainsi que des spectacles sous chapiteau vous attendent. Cette année, le festival propose 3 soirées thématiques. Un jeudi 100% féminin, un vendredi à saveur de l'Est, avec entre autres la famille Leblanc, Vichten et Kimoru Cru, puis un samedi soir local avec le spectacle 10 ans du Diable à 5 et le retour du mythique groupe Arcanson. En journée, plus de 30 spectacles acoustiques chez les habitants prendront d'assaut le village. Plus d'informations et billets au ripontrade.ca.
Signal clair sur Lanaudière. CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226.
Au concert du dimanche à CFNJ, Laurent Voulzy et Alain Souchon. Le concert du dimanche. Dimanche matin, 7h, à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
François Legault qui tente de relancer son gouvernement avec ce remaniement ministériel qui a été présenté cet après-midi à Québec. Tout d'abord, il faut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de coulages.
Oui. Ben, il faut dire qu'un remaniement ministériel annoncé le 26 juin qui a lieu au début septembre, j'ai rarement vu ça. Évidemment, ça a permis à la presse, aux différents médias de
d'avancer toutes sortes d'hypothèses au cours des dernières semaines, mais ça a surtout paralysé l'ensemble de l'appareil d'État pendant 2 mois, là, parce que chacun savait pas s'il allait rester en poste, qu'est-ce qui arriverait. Alors ça a vraiment pas été, je pense, une très bonne décision de la part de M. Legault.
Tout d'abord, il faut mentionner qu'il y a 3 ministres de la région de la Naudière qui changent de portefeuille. C'est le cas de la députée de Berthier, Caroline Proulx, qui passe du tourisme aux aînés, poste qu'avait occupé Marguerite Blais par le passé. Il y a la députée de Repentigny, Pascale Derry, là, qui devient ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Elle quitte l'enseignement supérieur et elle sera remplacée par Martine Biron. Et la ministre de l'Habitation et députée de Bertrand, France-Hélène Duranceau, elle monte en grade en prenant les commandes du Conseil du Trésor. C'est quand même beaucoup de pain sur la planche pour France-Hélène Duranceau.
Oui. Je pense que pour les deux autres, on peut parler d'un déplacement latéral. Là, c'est des responsabilités qui sont quand même assez... Bon, qui sont différentes, mais je veux dire, sont de niveau similaire au Conseil des ministres. Pour France-Hélène Duranceau, c'est quand même très particulier parce que le premier ministre lui a demandé particulièrement à elle de s'occuper de l'allègement de la bureaucratie de l'ensemble de l'appareil d'État. Alors, elle a une grosse responsabilité, peu de temps, et elle hérite du Conseil du Trésor aussi. Alors, oui, ça, c'est vraiment une promotion là pour Mme Duranceau.
Il y a des députés d'arrière-ban qui deviennent maintenant ministres. Attention, ce seront des noms qui vous disent peut-être pas grand-chose. Certains, oui, peut-être, mais bon, Jean-François Simard, qui sera ministre des Ressources naturelles et des Forêts, également de la région de la Capitale-Nationale. On parlait tout à l'heure, d'ailleurs, avec le chef Sibi Flamand du Conseil des Atikamekw de Manawan. Là, on sait à quel point, actuellement, il y a des tensions entre le gouvernement et les Atikamekw, justement, dans le secteur de Wimotaché, au nord de la TUC. Il y a Donald Martel qui obtient l'agriculture, les pêcheries et l'alimentation. Amélie Dionne qui va prendre les rênes du tourisme en lieu et place de Mme Proulx, Caroline Proulx. On parle aussi d'Éric Girard, tiens, qui devient ministre délégué au développement économique régional et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Samuel Poulin.
C'est pas le même, là. C'est pas le même.
C'est un autre, c'est
Girard,
ça, c'est
là.
Ça. C'est l'autre. C'est pour ça qu'il
faut bien le spécifier. Maintenant, il y a deux Éric Girard au Conseil des ministres.
Ce qui est vraiment, vraiment mélangeant. Et, bon, on parle de Samuel Poulin qui devient ministre responsable de la jeunesse et Christopher Skitty qui devient ministre des Relations internationales et de la Francophonie. Alors, ça, ce sont des députés d'arrière-ban qu'on a décidé de ministrer. Je m'attendais peut-être à quelque chose pour François Saint-Louis, député de Joliette, mais non.
Mais ça, c'est vraiment axé sur la possibilité de gagner le comté ou pas. Je vais te donner un exemple. Amélie Dionne, dans Rivière-du-Loup, Témiscouata, a remplacé Mathéi Blanchette-Vézina, qui était la députée de Rimouski. Pourquoi? Ben, les conseillers de M. Legault considèrent qu'ils ont plus de chances de gagner Rivière-du-Loup que Rimouski. Donc, on nomme Amélie Dionne pour augmenter ses chances d'être élu, et on sacrifie Mme Vézina, Blanchette Vézina, parce qu'on sait que Rimouski, ça va passer au PQ. Alors, c'est un peu la même chose pour les autres députés, c'est qu'on a scruté les possibilités d'aller chercher certains comtés, peut-être une cinquantaine qui ont été identifiés, et on fait une promotion des députés de ces circonscriptions-là pour leur donner plus de visibilité avant la prochaine élection, qui est en octobre prochain. Alors, ça tient davantage à ça qu'à leurs compétences. Je ne dis pas qu'ils sont pas compétents, là, mais c'est vraiment des calculs extrêmement électoralistes qui sont faits à ce niveau-là.
Petite parenthèse, Pierre, comme par pur hasard, au même moment où François Legault annonçait son nouveau Conseil des ministres, QC125 mettait à jour ses projections. C'est 0 députés là, pour la coalition Avenir Québec.
Oui. Mais là, quand on parle, bon, je pense que si on regarde plus attentivement entre 0 et 3, là, mais
sûrement... maintenant, c'est entre 0 et 0. Alors, il n'y a pas de possibilité.
Ah oui, OK. Bon, j'avais regardé lundi.
C'est
0
ça.
Et 3. Là, ça évolue quand même, mais pas positivement pour M. Legault. Mais c'est ça, il y a des calculs. Moi, je pense, en tout cas, puis tout le monde va être d'accord avec ça, que ça ne sera pas suffisant pour relancer le gouvernement et lui permettre de sortir de l'ornière dans laquelle il se trouve présentement. Alors, je ne sais pas quelle autre carte va être en mesure de jouer M. Legault. Bon, sûrement, peut-être, à l'ouverture de l'Assemblée nationale le 30 septembre prochain, il y aura un discours d'ouverture et là-dedans, on nous annoncera des choses. Mais pour le moment, le remaniement ministériel qu'on a vu, là, c'est pas quelque chose qui va être suffisant pour redorer l'image du gouvernement caquiste.
Ben justement, parlons-en parce qu'on a souvent dit que la coalition Avenir Québec était le parti d'un seul homme en la personne de François Legault. François Legault a dit qu'il serait présent l'automne prochain aux élections, mais de sondage en sondage, ça va pas en s'améliorant. Est-ce qu'il pourrait revenir sur sa décision d'être présent à la prochaine campagne électorale et céder son poste? Parce que là, François Legault, selon le plus récent sondage, Palace Data, François Legault est même moins populaire que son parti. Son parti est à seulement 11 % dans le dernier Palace Data.
Oui, puis c'est le moins populaire des premiers ministres de l'ensemble canadien.
Et là, et ça bat même Jean Charest là, dans l'histoire.
Oui, oui. Mais en même temps, il n'y a pas de dauphin ou de successeur qui se démarque. Alors, à un moment donné, on pensait que Geneviève Guilbeault visait à remplacer M. Legault.
Ah non, mais pas avec sa clique, on oublie ça, là.
Exactement. Avec sa clique, c'est impossible. Il y a peut-être Jolin Barrette, mais je pense pas que c'est une personne qui va s'amuser à pousser M. Legault dehors. Mais je pense que François Legault veut rester, va vouloir rester jusqu'à la fin, assumer ses responsabilités. Effectivement, c'est le parti d'un seul homme, donc les suites après l'élection seront probablement assez chaotiques.
Les départs maintenant, André Laforêt, ex-ministre des Affaires municipales, là, qui a fait le saut, il faut le rappeler, à la mairie de Saguenay. Les ministres André Lamontagne et Suzanne Roy qui ont accepté là, de céder leur place, mais quand même, ils demeurent députés. Et il faut mentionner le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, là, qui a été carrément écarté du Conseil des ministres. Il est député de la circonscription de Granby. Est-ce que tu crois que Bonnardel pourrait faire cavalier seul, quitter la CAQ?
En tout cas, d'après ce que je peux voir, il va être un fidèle soldat. Mais évidemment, ça va alimenter dans l'opinion publique la question pourquoi Bonnardel a payé pour le scandale de sa clique. Et puis, Geneviève Guilbeault a rien eu. Alors, je pense que ça aide pas beaucoup la cause de M. Legault. Même chose pour Drainville. S'en va environnement, alors qu'il a dit « Sacrez-moi la paix avec vos GERC ». Alors, c'est un mauvais départ.
Merci beaucoup, Pierre Paquette. Ce sera évidemment à suivre. Il y aura d'autres réactions à venir dans les prochaines heures également demain. Bonne fin de journée, Pierre.
Merci, bye.
Je salue et remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Pierre Jubinville, François Morin et Régent Turgeon, ainsi que Pierre Paquette. Oui, ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. La vie dans la Naudière s'en vient dans un instant avec Nicolas Bellemare et Hugo Valiquette. Et ce même Nicolas Bellemare vous accompagnera de l'autre côté des nouvelles de 17h pour le 5 à 7 trad de CFNJ. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 16h, pour une autre édition de Lanaudière PM.